Vous êtes avec SBS French.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Si vous suivez la série Guillaume's French Atlantic sur SBS Food et SBS On Demand, vous savez que Guillaume Brahimi sera de passage au Pays Basque dans le dernier épisode de la saison, le jeudi 18 juillet. Il va entre autres préparer un soufflé à l'osso irati, ce riche fromage de lait de brebis au goût de noisette. Que vous soyez déjà fan du fromage ou que ce soit la première fois que vous en entendiez parler, j'ai rencontré une experte de l'osso irati, Valérie Ann Best de Smelly Cheese à Adélaïde. Elle nous parle du fromage et de son séjour chez un berger et producteur d'osso irati dans les Pyrénées.
Pour commencer, disons que si quelqu'un vient chez Smelly Cheese à Adélaïde, puis vous demande qu'est-ce que c'est l'osso irati, qu'est-ce que vous leur dites?
Je leur parle du fait que c'est probablement l'un des fromages les plus anciens du monde. Il y a une légende, une belle légende, qui dit que le fils d'Apollo, du dieu Apollo, il était berger et donc il créait un fromage qui serait l'ancêtre de l'osso irati. Donc il parle de l'un des plus vieux fromages du monde puisqu'il y aurait des traces historiques qui remonteraient jusqu'à 3000 ans. Donc c'est assez phénoménal. Même si ça n'est qu'une légende, je pense que c'est vraiment un fromage qui a été fait depuis très longtemps. Ça fait très longtemps que les hommes traient les brebis et je pense que les brebis et les chèvres étaient les premiers animaux à être traits avant les vaches. Et donc je pense que le fromage de brebis est un fromage très ancien. C'est un fromage qui vient donc des Pyrénées. Ça s'appelle l'osso irati parce que l'osso, c'est la vallée d'Osso, donc dans les Pyrénées, et l'irati, c'est une vallée du Pays Basque. Donc c'est vraiment une petite mixture d'un produit franco-basque. C'est assez intéressant parce que c'est un produit qui a des traditions extraordinaires, qui est toujours vraiment protégé. Les Français aiment énormément ce fromage. Je leur dis que c'est un fromage fait avec un lait de brebis, donc qui est plus rare dans le sens où les brebis produisent moins de lait que les vaches. Bien évidemment, c'est un animal bien plus petit, donc il arrive que le lait vienne à manquer. C'est aussi un produit qui coûte un petit peu plus cher parce qu'effectivement, il y a l'offre et la demande. Mais c'est un produit qui, d'un point de vue santé, est maintenant, c'est bien compris que le lait de brebis affectera moins les gens qui souffrent un tout petit peu d'intolérance du lait.
Visuellement, le fromage a l'air de quoi?
Alors, c'est un fromage qui fait environ 7-8 kilos. Il a une marque qu'on reconnaît. Il y a deux types d'osso. Il y a l'osso fermier et l'osso qui est fait toute l'année et qui est fait aussi de façon plus industrielle. L'osso fermier est reconnaissable avec une tête de brebis relativement succinctement faite. Donc il a une croûte orangée, une croûte qui s'affine avec le temps et qui change bien sûr visuellement avec le temps. On sent un produit traditionnel, on sent quelque chose qui est fait manuellement et on sent l'effort de l'humain dans la production de ce fromage. Il a une pâte un peu plus clair que le lait de vache, mais un peu moins blanche que le lait de chèvre. Il a une odeur fermière, on sent effectivement l'herbe, on sent la présence de l'animal pas si loin que ça. C'est un produit qui est attirant parce que je pense qu'il n'a pas changé depuis des milliers d'années et il a toujours la même tête et je pense qu'il est toujours aussi bon. Je pense qu'il attire visuellement. Il a des petites taches, parfois des petites taches rouges qui sont signes d'un parfum et d'un goût extraordinaire qui est très typique des Pyrénées. Donc quelque part, il a une vraie typicité. On sent que on reconnaît le produit des Pyrénées et il y a quelques produits comme ça qui sont déclinés parce que parfois ils mélangent lait, ils font du lait de vache, du lait de chèvre, du lait de chèvre, le lait de vache. Donc, ils jouent beaucoup avec les assemblages dans les Pyrénées, ce qui est assez reconnaissable aussi.
J'adore vous écouter parler de fromage, et le plus important, le goût de l'osso irati. Qu'est-ce que ça goûte?
C'est donc un pur lait de brebis. C'est une brebis qui est typique du coin. Ça s'appelle la brebis basco-béarnaise. Donc c'est vraiment une brebis particulière. Et le lait de brebis, typiquement, il a une longueur. Il est assez gras, mais il a surtout un goût de noisette. Et c'est ce qu'on va vraiment retrouver dans les fromages qui utilisent le lait de brebis. Je pense que les fromagers, ils aiment utiliser le lait de brebis parce qu'il a plus de matière grasse, il a un peu plus de calcium. On va peut-être donner moins de fromage, mais il va avoir un goût très beurré, très finalement relativement intense, mais intense avec une douceur sucré-salé qui est toujours exceptionnel. C'est un fromage qui est entre la noisette, l'herbe. On est dans la montagne avec ce petit fromage, sans que ça soit très très fort. Et c'est pas un fromage fort, c'est un fromage doux, c'est un fromage qui va fondre merveilleusement dans la bouche et aussi si vous le mettez dans un toastie, donc c'est exceptionnel. Mais c'est un produit qui j'ai eu la chance de travailler avec un fabricant d'osso irati. Et donc, l'osso irati, il va être fait différemment l'hiver ou l'été. L'hiver, en l'occurrence, donc, les petites chèvres, elles restent, quand elles sortent, de toute façon, il y a beaucoup de neige dans le pays dans lequel elles vivent. Donc, elles sont alimentées différemment avec des grains, avec des graines, avec un peu de foin qui a été récolté pendant l'été. Mais j'ai eu la grande chance, fin mai l'année dernière, d'emmener ces petites brebis en alpage. Ça veut dire que fin mai, début juin, les bergers accompagnent les petites brebis en altitude. En fait, on suit un petit peu la fonte des neiges et on monte avec les brebis. Tout dans un premier temps à environ 1000, entre 1300 et 1700 mètres d'altitude, pour que ces brebis aient accès à une passée extraordinaire. Et moi, j'ai donc accompagné des brebis qui, comme vous l'imaginez, elles se suivent assez rapidement, assez facilement l'une l'autre. Mais s'il y en a une qui décide de rentrer, toutes les autres suivent. Donc, effectivement, les bergers ont un rôle très important à jouer, à essayer de mener leur troupeau de brebis dans un point que les vieilles brebis connaissent. À la limite, elles y vont toutes seules. Les jeunes brebis ont besoin un petit peu d'aide. Et là, elles étaient toutes jeunes. On les a emmenées. On a pris, je sais pas, 4-5 heures pour les emmener de 700 mètres d'altitude à 1300 mètres d'altitude. C'est impressionnant. Elles ont toutes des petites cloches. Elles ont des petites couleurs sur la laine pour savoir à peu près l'âge donc ce qu'on peut attendre de ces petites bêtes. Et puis tout d'un coup, au bout de 4-5 heures de grimpette, alors que le sol est caillouteux, parfois on est à flanc de montagne, je me dis, mais on va en perdre, c'est sûr, elles vont tomber. Et en fait, elles s'accrochent bien à la montagne. Et au bout de 3-4 heures, on arrive dans une vallée. C'est extraordinaire, avec des pics où on voit encore la neige un peu plus haut, mais tout d'un coup, les brebis arrivent, elles courent dans un champ, mais d'herbe toute fraîche, il y a des petites rivières d'eau, là, c'est idyllique, et on imagine que les petites brebis sont aussi heureuses que l'image que ça nous donne. C'est extraordinaire. Donc on a vécu 3 jours dans cette petite vallée où il y a des huttes qui sont très 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 basiques. Il n'y a pas de chauffage, il y a à peine d'eau courante. Et le fromager va faire de l'osso irati en alpage, en altitude. Ils appellent ça l'estive. Et il va faire en gros pendant l'été 500 roues d'osso irati en haute altitude avec très peu de machinerie finalement. Il venait juste d'installer une traite électrique, mais c'était tout neuf. C'est la 48e estive qu'il faisait. Il avait à peine 55 ans, donc il a démarré très jeune avec son père. Et lui, il se rappelle de moments où il faisait toute la traite à la main. Et quand on traite 200, 300 brebis à la main, ça prend un temps fou, d'autant qu'il y a une traite du matin, une traite du soir. On fait le fromage entre les deux traites. C'est exceptionnel. Et ces petites meules d'eau soyrati vont rester donc tout l'été dans cette petite hutte où, encore une fois, il y a très très peu de confort. Je trouve ça vraiment, ça rend tout humble parce qu'on se, les gens vivent encore là-haut comme on vivait il y a 300 ans. Un espèce d'écosystème vraiment très intéressant, ancestral. On sent bien que cette tradition n'a pas vraiment changé depuis des centaines, si ce n'est des milliers d'années. Et c'est très touchant de voir comment le fromage est fait. Donc, quand on voit un fromage d'estive, un fromage fermier, un fromage qui est fait l'été, donc c'est les fromages d'estive. Je pense que en tant que consommateur, c'est important de comprendre d'où vient le produit, comment il a été fait, et donc du coup la qualité exceptionnelle et les goûts extraordinaires du lait de brebis qui est trans. C'est vraiment la traduction intégrale du lait de brebis. Puisque chose importante, c'est un fromage qui est fait au lait cru, bien évidemment, le fromage d'estive, même s'il y a quelques ossuératiques qui sont faits au lait pasteurisé. C'est important de savoir que en Australie, puisque c'est là que nous sommes, l'ossuératie au lait cru n'a été autorisée que depuis 2021. Donc c'est assez récent. Donc on a la grande chance maintenant de faire venir des produits de terroir, des produits au lait cru, et ça c'est important. Et je suis ravie moi que l'Australie ait enfin ouvert la possibilité à ces produits pour entrer dans ce pays.
Est-ce qu'avant c'était plus difficile de trouver de l'ossuarati en Australie, considérant que la majorité est faite avec du lait cru, puis on pouvait pas l'importer ici?
C'était pas difficile, mais c'était tous les ossuarati avant 2021 étaient faits au lait pasteurisé. Je pense que la majorité des ossuarati qu'on trouve aujourd'hui sont encore au lait pasteurisé, mais il faut savoir que maintenant on peut les trouver au lait cru. Et ça veut dire qu'il faut un petit peu les chercher, il faut un petit peu pousser le consommateur à comprendre la différence entre un ossuarati au lait pasteurisé et un ossuarati au lait cru.
Et puis, est-ce que c'est un fromage qui est connu? Est-ce que vos clients viennent le demandent ou est-ce que c'est encore un peu nouveau ici?
Je pense que c'est un des produits qui est de plus en plus connu et il a eu cet avantage de tomber justement dans cette petite niche qui, d'un point de vue santé, fait que les gens recherchent des produits au lait de brebis. Donc finalement, il n'y en a pas énormément. Et entre le Manchego espagnol et le Ossuarati, ce sont deux produits que les gens réclament beaucoup. Et je pense que ça vient énormément du côté, non seulement sanitaire, mais d'un point de vue santé personnelle, où les gens commencent à comprendre effectivement l'intérêt d'un produit au lait de brebis.
Évidemment, on peut l'apprécier seul, mais vous mentionnez plutôt les toasties. Comment vous suggérez de le manger?
Alors, il y a une très belle tradition dans les Pyrénées qui fait que ce produit est mangé avec une petite confiture à la cerise noire. Et c'est vraiment une tradition. Si vous êtes dans le Pays basque ou dans les Pyrénées, il va être servi avec une petite cuillère de cerise, de griotte, de petite confiture à la griotte. Donc, ces petites pâtes, effectivement, ou les petites pâtes de coing ou les petites pâtes de fruits rouges, ça va très très bien avec l'ossuarati. On peut bien évidemment rajouter une petite touche de cette confiture sur un toastie. Ça rend le produit sucré-salé extraordinaire. Les vins, moi j'adore personnellement l'ossuarati avec un pinot noir parce qu'il y a un petit côté sol, sous-sol boisé, des côtés fruits rouges aussi qui sont bien exprimés par le pinot noir et qui vont vraiment merveilleusement avec l'ossuarati. C'est vraiment un fromage de table. Je pense que c'est un fromage qu'il faut goûter essentiellement seul ou avec une petite cuillère de confiture de cerise. Parce qu'il parle tout seul ce produit, donc il va bien évidemment se fondre, mais je pense que c'est vraiment un produit qui doit se déguster seul.
C'est tellement merveilleux, ce serait triste, je pense, de le perdre avec trop de saveurs différentes. Je veux vraiment en profiter. Quand j'ai de l'osso irradié à la maison, je veux en manger seul, souvent, pas d'autres fromages non plus, je veux en profiter.
Mais tu vois, moi, ce que je pense qui est important, c'est qu'effectivement, c'est aider les gens à toucher le fromage, mais être sûr qu'il soit à température ambiante, le respirer, parce qu'il a tellement il donne tellement d'arômes, ce fromage. Donc, c'est le. Moi, je dis toujours aux gens, prenez votre bout d'osso irati, mettez-le dans vos mains, ouvrez vos mains, respirez vos mains, et seulement. Après avoir respiré profondément les arômes de l'osso irate, c'est le goûter. Et là, tout d'un coup, il va s'exprimer complètement. Et c'est une vraie. C'est comme la cérémonie du thé. Je pense qu'il faut vraiment. Il y a une cérémonie de la dégustation de l'osso irate, comme de tous les fromages de tradition. Ils ont tellement à offrir. Il faut juste savoir les écouter, savoir les respirer, savoir les déguster à leur juste valeur.
Merci beaucoup, Valérie.
Si vous voulez parler fromage avec Valérie N. Best, vous pouvez la retrouver chez Smelly Cheese au Central Market d'Adélaïde. Ces fromages, dont le l'osso irati, peuvent aussi être livrés par la poste presque partout en Australie. Et si vous voulez regarder l'épisode de Guillaume's French Atlantic au Pays Basque, ce sera diffusé jeudi le 18 juillet à 19h30 sur SBS Food. Et ensuite en rattrapage sur SBS On Demand.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.